Bonjour chers auditeurs, voici l'émission Visage de la Bible. Catherine Mann au micro pour vous proposer de feuilleter la Bible comme un album de famille, celui d'une grande famille spirituelle, où nous allons nous attarder sur quelques visages d'hommes et de femmes, en choisissant plutôt de mettre en lumière ceux qui ne sont pas très connus, mais qui méritent pourtant de l'être, ou en tout cas qui méritent que l'on s'y intéresse, car dans la Bible, tout a son importance. Continuons donc de tourner les pages bibliques et arrêtons-nous maintenant sur un visage de femme, celui de Rachel. Rachel est une des filles de Laban, qui est lui-même un fils de Bethuel, c'est-à-dire un neveu d'Abraham. Et Laban avait une sœur, Rebecca, qui avait épousé Isaac, le fils d'Abraham. Ainsi donc, Rachel fait partie du grand clan familial d'Abraham, assez dispersé sur le territoire. Or, la tante de Rachel, donc Rebecca, avait mis au monde deux fils, Ésaü et Jacob. Vous vous souvenez sans doute que Jacob, aidé par sa mère, avait réussi à prendre la place de son frère aîné Ésaü pour s'emparer de l'héritage paternel. C'est pourquoi Jacob fut ensuite obligé de fuir devant la colère de son frère. Alors, ses parents l'avaient envoyé vers son oncle Laban pour qu'il y trouve un refuge et aussi puisse, par la même occasion, trouver une épouse qui soit du clan familial. Il était en effet primordial pour eux à cette époque de préserver l'unité autour de la foi d'Abraham, une religion nouvelle qui devait être préservée du risque des unions avec les anciennes idoles païennes. On faisait donc plus confiance à la consanguinité pour éviter de corrompre le monothéisme, sans doute encore trop fragile. Donc, voilà Jacob qui s'approche des terres de son oncle Laban et qui s'arrête à un puits où il fait la connaissance des serviteurs de Laban, certains serviteurs qui étaient venus pour puiser de l'eau. Lisons quelques lignes de ce chapitre donc 29 du livre de la Genèse, qui nous raconte cet épisode. Il parlait encore avec eux lorsque Rachel arriva avec les moutons qui appartenaient à son père Laban, car elle était bergère. Jacob s'avança, roula la pierre de dessus le puits et fit boire les moutons de Laban, frère de sa mère. Et Jacob fut ému et pleura. Il dit à Rachel qu'il était un parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca. Alors Rachel courut en informer son père, et dès que Laban entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, il l'étreignit, l'embrassa et l'amena chez lui. Il lui dit « Tu es sûrement mes os et ma chair ». Voilà donc un texte qui nous montre Jacob accueilli très chaleureusement chez son oncle Laban. On voit à quel point les liens familiaux étaient importants pour eux. Mais comme Jacob était venu là pour se cacher d'Ésaü, donc pour une durée indéterminée qui risquait d'être longue, la question se posa de sa contribution aux frais de son entretien. Laban interroge franchement son neveu et lui dit « Me serviras-tu gratuitement parce que tu es un frère pour moi ? Sinon, indique-moi quel gage tu demanderas ?» Et la réponse de Jacob est assez surprenante. « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Car en fait, Jacob était déjà tombé amoureux de Rachel, sans doute même depuis les premiers instants de leur rencontre au puits. Alors, il faut dire, comme le dit le verset 27 du chapitre 29, que Rachel avait bel aspect et était belle à regarder. La réputation première de Rachel, c'était sa beauté. Et donc Laban va accepter cette proposition, il donnera sa fille en mariage à Jacob, après que celui-ci aura travaillé à son service pendant 7 ans. Ensuite, la Bible nous dit, Jacob servit 7 ans pour Rachel, mais ils lui parurent quelques jours tellement il l'aimait. Voilà. Les événements ne se passeront en fait pas du tout de cette façon, car en réalité, Laban avait 2 filles. Rachel n'était que la cadette. Elle avait une sœur aînée qui s'appelait Léa, dont le texte biblique nous dit ceci, une seule petite chose, elle avait les yeux faibles. En fait, on ne sait pas vraiment comment traduire cette expression. Parfois, on dit tout simplement qu'elle devait loucher. En tout cas, elle voyait mal et n'avait pas un très beau regard. Or, quand Jacob eut effectivement travaillé pendant 7 années pour le service de Laban, vint enfin l'heure de son mariage, où il eut la mauvaise surprise de voir apparaître Léa, la sœur aînée, au lieu de Rachel. Il était tombé dans un piège. En fait, Laban voulait caser sa fille aînée et sous prétexte que la coutume voulait que la fille aînée soit toujours mariée la première, Jacob, bien malgré lui, se vit obligé d'épouser Léa. Heureusement, comme la polygamie était alors habituelle, Laban lui proposa d'épouser ensuite Rachel, à condition toutefois de consacrer de nouveau 7 années de travail au service de son beau-père. Alors, comme Jacob aimait profondément Rachel, eh bien, il va accepter ce nouvel arrangement et se remit au travail et a espéré d'épouser Rachel. Donc voilà encore une famille biblique où les relations ne devaient pas être tous les jours très confortables. D'autant plus que le sort semblait s'acharner contre Rachel. Parce qu'une fois qu'elle avait épousé Jacob, elle resta quand même stérile. Alors que sa grande sœur Léa fut, elle, rapidement et extraordinairement féconde. Lisons ce que la Bible raconte de Léa. Nous sommes à la fin du chapitre 29 de la Genèse. Quand le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde, alors que Rachel restait stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ruben, car dit-elle, le Seigneur a regardé mon humiliation et maintenant mon époux m'aimera. Et Léa devint de nouveau enceinte et elle enfanta un fils. Alors elle s'écria, comme le Seigneur s'est aperçu que je n'étais pas aimée, il m'a encore donné celui-ci. Et elle l'appela Siméon. Et elle devint de nouveau enceinte et enfanta encore un fils, disant, « Cette fois-ci, mon époux s'attachera désormais à moi, puisque je lui ai donné 3 fils. » C'est pour ça qu'elle l'appela Lévi. Puis Léa devint à nouveau enceinte, enfanta encore un fils et s'écria, « Cette fois, je louerai le Seigneur. » C'est pourquoi elle l'appela Judas. Et là, elle s'arrêta d'enfanter. Reprenons donc la lecture du texte biblique au chapitre 30 du livre de la Genèse et retrouvons Rachel, verset 1. Voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle vint dire à Jacob, « Donne-moi des fils ou je meurs !» Jacob s'irrita contre Rachel et s'écria, « Est-ce que je suis, moi, à la place de Dieu ? C'est lui qui n'a pas permis à ton sein de porter son fruit. » Donc nous sommes de nouveau dans une ambiance de couple un peu étrange, quelques années à peine après leur mariage, Rachel, jalouse de sa sœur, s'énerve contre son mari, qui lui-même proteste contre les reproches de sa femme qu'il trouve injustes. C'est alors que Rachel eut l'idée, selon la coutume de l'époque, de proposer sa servante, Bila, à son mari, pour que lui fasse un enfant à sa servante, car cet enfant sera alors considéré comme appartenant à Rachel. On trouvait normal à cette époque cette sorte de fonction de mère porteuse qui incombait à la servante. Donc Jacob obéit à Rachel et la servante enfanta un fils. Donc je vous lis Genèse chapitre 30, verset 6. Rachel s'écria, « Dieu m'a fait justice, il m'a aussi exaucé et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. Et Bila, servante de Rachel, devint de nouveau enceinte et donna un second fils à Jacob. Et Rachel s'écria, « J'ai lutté avec ma sœur à cause de Dieu, mais j'ai vaincu. » Et elle appela ce fils Nephtali. Voilà, donc Rachel est apaisée avec les deux fils de la servante. On pourrait penser que l'histoire pouvait s'arrêter là, mais pas du tout. Car cette fois, c'est Léa qui, dépitée de n'avoir plus d'enfants à enfanter, elle va offrir les services aussi de sa servante comme mère porteuse. Elle lui envoie donc à Jacob sa servante Zilpa, qui, elle aussi, va lui donner des fils. Deux fils. Le premier s'appellera Gad et le deuxième Asher. Mais Léa, stimulée par ces deux fils supplémentaires, va aller négocier avec Rachel de pouvoir reprendre sa place dans le lit de Jacob. Et ainsi, Léa va pouvoir de nouveau être enceinte et donner un cinquième fils à Jacob, elle-même. Donc, elle l'appellera Issachar. Et puis encore un de plus, un sixième fils, pour lequel elle s'écria, nous lisons ça au verset 20, « Dieu m'a fait un beau cadeau, cette fois-ci mon époux reconnaîtra mon rang, car je lui ai donné six fils. » Et elle appela celui-ci Zabulon. Effectivement, quand on pense à l'importance pour une femme dans la culture hébraïque de donner un fils à son époux, Léa peut effectivement être fière d'elle avec ses six fils. Et pourtant, elle aura encore un enfant, une fille cette fois, appelée Dina, qui vient un peu comme une petite pièce rapportée, compléter la longue liste des enfants de Léa. Mais le match entre les deux sœurs n'est pourtant pas encore achevé. Lisons maintenant Genèse chapitre 30, les versets 22 à 24. Alors Dieu se souvint de Rachel. Dieu l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte, elle enfanta un fils et s'écria, « Dieu a enfin enlevé mon déshonneur. » Et elle appela son fils Joseph en disant « Que le Seigneur m'ajoute un autre fils. » Ce qui arriva d'ailleurs, mais quelques années plus tard, et malheureusement, car dans ce deuxième et tardif accouchement, Rachel perdra la vie en mettant au monde le petit dernier de la fratrie, celui que son père appellera Benjamin. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, Rachel et tout à la joie d'avoir mis au monde son fils, Joseph. Et comme elle est enfin comblée, son mari Jacob se dit qu'il est temps maintenant de mettre fin au contrat qui le liait à son beau-père, c'est-à-dire 14 années de travail passées à son service pour ces deux mariages, auxquels se sont depuis ajoutées 6 années consacrées à accroître les troupeaux. Alors, Jacob commence toute une tractation avec Laban pour pouvoir obtenir de lui un troupeau qui lui appartienne en propre au moment de partir et de rentrer sur ses terres familiales. Mais on va retrouver là le côté rusé de Jacob, celui qui a trompé son frère déjà. Ici, il va trouver le moyen de s'approprier toutes les bêtes robustes des troupeaux en ne laissant à l'aban que les plus chétives. Je n'explique pas le stratagème, c'est vraiment trop compliqué à comprendre. Mais en tout cas, quand Laban se rend compte de la manipulation, évidemment, il se met en colère et les relations deviennent mauvaises. C'est pourquoi Dieu va venir lui-même avertir Jacob pour lui dire « Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta famille. » Alors Jacob vient trouver ses femmes pour les préparer à partir. Mais les deux sœurs, apparemment bien réconciliées, vont faire remarquer à leur époux que Laban, leur père, s'est montré extrêmement malhonnête aussi envers elles, en les privant de leur dot, et qu'elles se trouvent à ce moment-là dépouillées de tout bien par ce père peu scrupuleux. Alors, pendant que Jacob organise la fuite quand même de sa famille, de ses troupeaux et de quelques serviteurs, Rachel va, en forme de représailles, aller dérober à son père les statuettes d'idoles protectrices qu'il conservait de ses anciennes habitudes païennes. Et ensuite, elle rejoint sa famille et tout le monde va réussir à s'enfuir en douce en emportant cette sorte de trésor de guerre que Rachel a dérobé à son père. Alors, bien évidemment, quand Laban va se rendre compte non seulement du départ de son gendre et de ses filles, mais du vol qui, pour lui, est quelque chose de terrible, il va se mettre à leur recherche et les rattraper. Entre-temps, Dieu est venu lui demander de se montrer modéré envers eux. C'est donc avec beaucoup d'amabilité que Laban vient s'adresser à Jacob quand il le retrouve en lui disant, on est au verset 27 du chapitre 31, « Pourquoi as-tu caché ta fuite et m'as-tu évité au lieu de me prévenir ? Je t'aurais laissé partir dans la joie et les chants. Tu ne m'as même pas laissé embrasser mes filles et tes fils. Et pourquoi m'as-tu dérobé mes dieux ?» Voilà donc en fait la vraie raison de la poursuite. Mais en fait, nous sommes là devant un gros malentendu, car Jacob n'est pas au courant. Il ne sait pas que c'était Rachel qui a volé ses statuettes. Elle ne lui a rien dit. C'est pourquoi, plein de bonne volonté, Jacob va autoriser son beau-père et ceux qui l'accompagnent de fouiller partout dans le campement pour retrouver ce qui lui appartient, et Jacob promet que le voleur sera mis à mort. Ah, voilà Rachel en bien mauvaise posture. Alors, lisons le récit de ce qui se passe ensuite, donc chapitre 30, verset 33 et suivant. Laban entra fouiller dans la tente de Jacob, puis dans celle de Léa, puis dans celle des deux servantes. Et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa pour entrer dans celle de Rachel. Or, Rachel avait mis les idoles dans le bas d'un chameau, et elle s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouvait rien. Rachel dit alors à son père, « Que mon Seigneur ne m'en veuille pas, mais je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui arrive aux femmes. » Alors Laban acheva de fouiller sans retrouver ses idoles. C'est un passage étonnant quand même. Comment ne pas admirer l'audace et l'intelligence de Rachel dans cette situation? Car en disant à son père qu'elle se trouvait empêchée de se lever à cause de ce qui arrive chaque mois aux femmes, elle est sûre que celui-ci n'essayera même pas de l'approcher, car il y a là un tel tabou d'impureté qu'il n'aura aucune envie de le transgresser. Alors nous sommes là devant un épisode très révélateur de l'astuce et de la débrouillardise dont peuvent faire preuve les femmes de la Bible, alors qu'elles ont tellement peu de pouvoir et de liberté dans la société. Cela nous montre comment ces femmes, qu'on appelle souvent les matriarches, ont pu se rendre si présentes et efficaces malgré leur position subalterne. Continuons de nous intéresser à Rachel qui vient de dérober donc les dieux protecteurs de son père des statuettes qui pour la religion de son époux Jacob ne sont que des idoles. Mais pour en faire quoi exactement, le texte n'en dit rien. Était-ce juste une vengeance personnelle, une manière d'affaiblir son père comme lui-même avait fait envers elle en la privant de sa dot? Je me demande aussi en quoi étaient fabriquées ces idoles. Car dans les psaumes, on trouve plusieurs fois l'évocation des idoles d'or et d'argent des peuples païens. Dans le psaume 115, verset 4, par exemple, dans le psaume 135, au verset 17, ces idoles d'or et d'argent qui ne peuvent pas aider. Alors, est-ce que Rachel n'a pas trouvé ce moyen de récupérer une partie de son héritage en faisant après, donc simplement fondre ces idoles auxquelles elle ne croyait plus? Elle pouvait ainsi récupérer l'or et l'argent, peut-être, qui sait. En tout cas, le fait est que, grâce à ce vol, dont Laban ne trouvera pas l'explication, Jacob va pouvoir jouer les outragés, parce qu'il a été accusé à tort. Et en fait, cela va lui permettre de négocier un accord avec ce beau-père, qui va accepter de cesser les poursuites et conclure un traité de paix, en promettant de respecter à présent un partage des territoires pour les troupeaux, car maintenant Jacob est devenu riche en troupeaux, il lui faudra beaucoup d'espace de pâturage, et cet accord de paix est une assurance de pouvoir circuler en sécurité à l'avenir, tout ça en fait grâce à l'astuce de Rachel. Le clan de Jacob va continuer donc sa marche, et en chemin rencontrer le chemin d'Ésaü, le frère ennemi. Mais là aussi, il y aura enfin réconciliation et promesse de paix. À partir de là, nous n'entendons plus beaucoup parler de Rachel. On dit bien que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et nous ne la retrouvons qu'au chapitre 35 de la Genèse, quand, de nouveau enceinte, elle aura un accouchement tellement difficile qu'elle en mourut. La sage-femme lui dira pour la consoler qu'elle pouvait être fière d'avoir encore un fils. Je vous lis cet épisode, donc versets 17 à 20 dans le chapitre 35. Rachel enfanta et ses couches furent pénibles. Or, comme elle accouchait difficilement, la sage-femme lui dit « Ne crains pas, car tu as un fils de plus. » Mais dans un dernier souffle, au moment de mourir, Rachel appela son fils Ben-Oni, c'est-à-dire fils du deuil. Mais son père l'appela Benjamin, c'est-à-dire fils de la droite. Rachel mourut et fut enterrée sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. C'est la stèle de la tombe de Rachel aujourd'hui encore. Oui, aujourd'hui encore, effectivement, même aujourd'hui, ce site existe toujours. Il est considéré comme le troisième lieu saint du judaïsme, après le mont du Temple à Jérusalem et le tombeau des patriarches à Hébron. Il est devenu un lieu de pèlerinage, surtout pour les femmes qui ont du mal à avoir des enfants. Mais nous pouvons encore trouver dans la Bible d'autres endroits où il sera question de Rachel, par exemple, dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31. Il s'agit d'une prophétie de Jérémie qui annonce le futur retour de l'exil et les promesses de Dieu de retrouver le bonheur. Donc, dans ce chapitre 31 de Jérémie, au verset 15, nous lisons ceci. Ainsi parle le Seigneur. Dans Rama, on entend une voix plaintive, des pleurs amers. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle refuse tout réconfort, car ses enfants ont disparu. Ainsi parle le Seigneur. Assez ! Plus de voix plaintive, plus de larmes dans les yeux. Ton labeur reçoit sa récompense, oracle du Seigneur. Donc Rachel est associée à une promesse de retour. Et on voit qu'elle est devenue, dans la mémoire d'Israël, une sorte d'archétype de la mère dont l'attachement à ses enfants est devenu légendaire. Et d'ailleurs, n'oublions pas que l'évangéliste Matthieu va citer ce texte de Jérémie au chapitre 2 de l'évangile, quand il raconte l'épisode du massacre des enfants innocents par le roi Hérode. Je vous lis donc Matthieu, chapitre 2, versets 16-18. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, entra dans une violente colère et il envoya tuer tous les enfants de Bethléem et de tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous. Alors fut accompli ce que le prophète Jérémie avait dit, une voix a retenti dans Rama, une lamentation et une longue plainte, c'est Rachel qui pleure ses enfants et qui refuse d'être consolée parce qu'ils ne sont plus. Donc pour Matthieu, c'est une prophétie du massacre des innocents, et dans la foi chrétienne, nous nous souvenons ainsi de Rachel encore aujourd'hui. Mais plus largement, nous pouvons voir, grâce à la vénération immense accordée à son tombeau, que Rachel est devenue un modèle féminin idéal, par sa réputation de beauté, par son intelligence, par l'amour des enfants, par les souffrances dans les difficultés à avoir des enfants, par sa mort même qui fut comme un sacrifice offert à la maternité, mais aussi par l'amour que lui porta toujours Jacob à travers tous les obstacles et toutes les épreuves. Alors, bien sûr, Jacob eut 12 fils, dont les 12 tribus d'Israël plus tard, dont 6 de sa première femme et 2 par l'intermédiaire de la servante Zilpa, et encore 2 fils par la servante de Rachel, Bilha. Mais il eut surtout 2 fils de Rachel, dont la Bible nous dit qu'ils étaient ses préférés à cause de l'amour qu'il avait eu pour leur mère. Et ce fut le cas surtout pour Joseph, dont le chapitre 37 de la Genèse nous explique la jalousie de ses frères parce qu'il était le préféré de leur père. Mais Jacob s'est attaché aussi à Benjamin, son petit dernier. Nous pouvons lire ça à la fin du chapitre 42. L'amour de Jacob pour Rachel a aussi laissé des traces dans la culture occidentale, à travers la peinture, bien sûr, mais aussi à travers la musique, particulièrement grâce à une femme musicienne, Elisabeth Jacquet de Laguerre, donc, qui a composé dans la période baroque une cantate Jacob et Rachel, dont nous entendrons peut-être quelques notes avant de nous quitter. Et je vous dis dès à présent au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
Rachel, Jacob brûlant d'amour, attendait la fin de sa peine. Ce jour, les alliés d'une éternelle chaîne, et la nuit attendue éteint déjà le jour. Son bonheur, une de ses mots, sa chasse.